Radio.
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
Et demi à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. C'est la République démocratique du Congo à la une ce matin. Alors que des combats entre le M23 soutenu par l'armée rwandaise et les forces congolaises se poursuivent désormais dans la province du Sud Kivu, nous serons à Goma où certains camps de déplacés en périphérie de la ville se vident de leurs habitants et à Kinshasa où une campagne de don du sang est organisée pour aider les soldats congolais. Dans ce journal également le Tchad, reportage à N'Djamena dans le quartier que les forces françaises viennent de quitter dans la capitale tchadienne. Le Burundi désormais fâché avec le Fonds monétaire international après que le FMI a demandé à Gitega une deuxième dévaluation du franc burundais. Nous serons aussi au Sénégal, où depuis la rentrée scolaire de janvier, certaines écoles élémentaires ont commencé à enseigner l'anglais aux petits Sénégalais. C'est le porte-parole du gouvernement congolais à Kinshasa qui le reconnaît dans un entretien accordé hier à TV5 Monde. Patrick Muyaya affirme qu'une grande partie de la ville de Goma est tombée entre les mains de l'armée rwandaise. Il précise bien l'armée rwandaise car pour lui le M23 seul n'existe pas. Goma donc, où les hommes du M23 sont entrés il y a maintenant une dizaine de jours, la capitale du Nord Kivu, qui en plus de ses habitants, abritait aussi des centaines de milliers de déplacés, abrités au passé, car ce week-end, certains camps en périphérie de la ville ont commencé à se vider de leurs occupants. Paul Lorgerie.
Les dizaines de milliers de tentes de fortune qui envahissaient les sites de déplacés de Bushagala et Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo ont disparu. Seules quelques pierres volcaniques qui en délimitaient les contours ainsi que des sachets plastiques et habits sont encore visibles. En lieu et place du brouhaha, des activités quotidiennes des déplacés, les oiseaux chantent et des enfants jouent au football sur un terrain désormais abandonné. Monsieur Kambale, un habitant des environs, s'étonne de ce vide soudain.
Ici, il y avait un grand camp de personnes déplacées venues de Rutshuru, de Masisi, de Kichanga ou de Kibumba qui avaient fui la guerre. Quand les combats sont arrivés ici, à Goma, ils ont détruit leurs tentes et certains ont regagné leur village, comme Kibumba, Rutshuru. C'est pourquoi le camp s'est vidé. Il y avait du monde qui vivait ici, mais désormais, il n'y a plus personne.
Ce dimanche, sur la route qui relie Goma à Rutshuru, des camions et motos ont été aperçus remplis de déplacés regagnant leur village. Généreuse, elle aussi déplacée, hésite pour sa part à rentrer chez elle.
Les voisins qui ont les moyens sont rentrés chez eux. D'autres encore ont trouvé refuge dans des familles d'accueil ou dans des écoles. Pour ma part, je n'ai pas les moyens de payer le transport. Mais si je reçois de l'aide, je rentrerai, je regagnerai mon village, car la paix est revenue. Mon souci est que ma maison à Boussanza a été détruite par une bombe, ce qui m'inquiète, et je demande à ce qu'elle soit reconstruite.
Selon leurs responsables, les sites de Bushagala et de Kanyaruchinya ont abrité plus de 700 000 déplacés sur les deux dernières années.
Et il y a trois jours, l'ONG Human Rights Watch déplorait dans un communiqué le fait que le M23 avait aussi commencé à démanteler des sites de déplacés dans la zone de Minova, c'est-à-dire dans la province du Sud Kivu. Le Sud Kivu où des combats se poursuivent, signalé ces derniers jours dans cette province. Donc hier, l'armée congolaise a annoncé le décès dans ces combats de l'un de ses officiers, le colonel Rugabisha, mort d'après le communiqué officiel après des affrontements au niveau de la localité de Niabibwe samedi, c'est-à-dire à 75 km environ de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Des soldats congolais qui ont besoin de sang pour pouvoir soigner leurs blessés. À Kinshasa, les autorités congolaises ont lancé une campagne de don du sang au Palais du Peuple qui abrite le Parlement congolais. Reportage d'Alexandra Branjou.
Sous une grande tente blanche, une vingtaine de personnes assises sur des chaises en plastique attendent pour donner leur sang. Mais avant cela, le docteur Egide Kalinda procède à un examen rapide.
C'est-à-dire, nous devons nous rassurer que la personne est en bonne santé. Donc, nous prenons la tension artérielle, la pulsation, et nous posons certaines questions pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une pathologie chronique. Et si tout va bien, alors on l'envoie au prélèvement.
Les donneurs sont ensuite allongés sur des transats, une aiguille plantée dans l'avant-bras, Grace N'Golo, une poche de sang posée sur le ventre, serre et desserre frénétiquement le poing pour activer la circulation sanguine.
Je n'ai pas de famille là-bas, mais famille c'est la RDC. Je ne vais pas accepter, moi, garder le sang avec moi. Et puis pour nous, il y a des militaires qui sont en train de mourir à cause d'hémorragie. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de venir en tant que patriotes.
Les donneurs sont principalement de jeunes hommes. Sarah Malonda est l'une des rares femmes présentes. Médecin, elle s'est laissée convaincre par son grand frère.
En étant médecin, cela ne suffit pas, mais m'a conscientisé en tant que patriote pour venir donner mon sang et sauver au moins une vie. Il a dit que les gens pour qui nous donnons ces sangs, ces sacrifices, ils ont tout abandonné ici pour aller se battre, nous défendre. C'est un prix que nous, on ne pourra pas payer pour eux.
Les autorités espèrent ainsi collecter 5000 poches de sang à l'issue de cette campagne de dons. Alexandra Banchon, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où l'opposition congolaise est remontée contre le président Félix Tshisekedi et sa gestion de la crise. Vous avez pu entendre ces derniers jours, notamment le camp de Moïse Katumbi et son porte-parole, Olivier Kamitatou, pour qui les dirigeants congolais sont les seuls responsables de la situation actuelle et qui a demandé le départ du pouvoir de Félix Tshisekedi. Réaction ce matin du pouvoir congolais, Thierry Monsenwempo est le communicateur de l'Union sacrée, c'est-à-dire la coalition présidentielle à Kinshasa.
Olivier Kamitatou s'acharne sur Félix Tshisekedi tout en épargnant Paul Kagame et ses mercenaires du M23, les vrais coupables de tout ce qui nous arrive. C'est une complicité, c'est une trahison. Pendant que les FARDC se battent, pendant que nos soldats versent leur sang pour protéger notre territoire, Olivier Kamitatou orchestre une guerre médiatique contre son propre pays. Et son discours, c'est un copier-coller de la propagande de Kigali, une déloyauté flagrante. La vérité est simple. Sous Félix Tshisekedi, l'armée se renforce. L'État reprend son autorité. Le Congo ne se laissera plus dicter sa loi. Et c'est bien cela qui dérange Kamitatou. Mais la vraie question demeure. Pourquoi Kamitatou refuse-t-il de nommer l'agresseur? Bien avant le chute de Goma, on parle des massacres de Kishishe. Il n'en pipe mot. Avec cette sortie médiatique, il est désormais clair qu'Olivier Kamitatou n'est pas un opposant, c'est un collaborateur. Son discours n'est pas celui d'un patriote, mais celui d'un homme à genoux devant l'ennemi. Les FARDC sont en mission, l'État résiste. Le Congo est debout, irréversible et invincible.
Thierry Monsenwempo, communicateur de l'Union sacrée, la coalition présidentielle à Kinshasa, au micro de Pascal Moulégua. Notez aussi que l'armée tanzanienne annonce la mort de deux de ses soldats ces deux dernières semaines. La Tanzanie qui participe à la mission de la SADC, la communauté d'Afrique australe dans l'Est congolais. Et à Kinshasa, la mission des Nations Unies a décidé de faire évacuer de la ville les familles du personnel de la MONUSCO, la force de l'ONU. Décision annoncée hier après-midi sans plus de précision, avec effet immédiat et pour une durée de 3 mois. Quelles conséquences pour les habitants du quartier de l'ex-base militaire française de N'Djamena au Tchad? L'armée française est partie. Le 31 janvier, elle a officiellement rendu aux autorités tchadiennes la dernière de ses 3 bases militaires dans le pays, celle d'Adji Kossé à N'Djamena, donc un quartier où les habitants commencent à réaliser les changements dans leur vie quotidienne. Reportage de Nadia Benmafoud.
Ce petit quartier collé à la base militaire d'Adji Kossé vivait au rythme des décollages d'avions de chasse français. Conséquence, le bruit et les fortes vibrations des avions ont laissé ici des traces. Aboul Kassem et Mbayaya y habitent.
Ma maison est comme ça, avec des fissures partout. C'est à cause des vibrations causées par les décollages des avions. Toutes les maisons ici sont comme ça, cassées et remplies de fissures.
Maintenant, il n'y aura plus les fissures des maisons. Ça, c'est déjà un atout. Et le bruit, il n'y en aura plus intense comme avant. Parce que constamment, quand il y avait les avions de chasse, il y avait trop de bruit, trop.
Si le voisinage se réjouit de la fin des nuisances sonores, quelques habitants de la capitale se disent affectés par le départ des militaires français. Une centaine d'artisans sont eux aussi touchés par la fermeture de la base d'Adji Kossé. Madeleine en fait partie avec une coopérative artisanale qui compte une trentaine d'employés.
Il y aura quand même un manque à gagner. Parce que la vente ne sera pas comme avant.
Pendant plus de 20 ans et 2 fois par semaine, la coopérative a vendu sa marchandise au marché artisanal installé au sein même de la base militaire. Ibrahim, gérant de la boutique de la coopérative.
Samedi, on devrait être là-bas. Et jusqu'à le soir, on va avoir quelques marchés. Mais aujourd'hui, depuis le matin, il n'y a rien ici. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que l'État va nous proposer comme alternative.
À l'intérieur de la base, les ventes pouvaient générer jusqu'à 300 000 francs par jour à la coopérative. Nadia Benmafoud, N'Djamena, RFI.
Et aujourd'hui, une assemblée générale des anciens travailleurs de la base d'Adjikossé est organisée à la Bourse du Travail de N'Djamena. C'est la demande de trop pour le Burundi, alors que Gitega et le Fonds Monétaire International ont conclu un accord il y a un an et demi, accord au terme duquel le Burundi devait recevoir 260 millions de dollars étalés sur 4 ans, de l'argent qui aurait dû aider le pays à faire face à une grave crise de devises en ce moment, qui se traduit aussi par une sévère pénurie de carburant. Une première tranche de l'aide a été décaissée en échange d'une première dévaluation du franc burundais. Et depuis, le FMI a réclamé une deuxième dévaluation, ce que le président burundais a refusé, nous explique Esdras Ndikumana.
Inacceptable aux yeux du président burundais, qui a bondi devant la proposition de dévaluer une nouvelle fois le franc burundais par rapport au dollar, afin d'aligner le taux du marché officiel sur celui du marché noir. Il est aujourd'hui 2,5 fois plus élevé. Mission de haut responsable du FMI ou de la Banque mondiale, visite d'experts, toutes les tentatives afin de le persuader de changer d'avis n'y ont rien fait. Evariste Ndayishimiye est resté droit dans ses bottes de général, ce serait participer à accélérer une inflation déjà galopante, a-t-il justifié à plusieurs reprises. Elle était par exemple de 36% en décembre, selon les données de la Banque centrale du Burundi. Conséquence, depuis le 18 janvier dernier, 18 mois jour pour jour après la signature de cet accord, celui-ci est devenu caduc. Ça veut dire que les quelques 200 millions de dollars que le FMI n'avait pas encore décaissés ne le seront pas, explique une de nos sources. Ce n'est pas une surprise car les autorités burundaises étaient au courant pour cette échéance. C'est un choix délibéré à renchérir une autre source, ajoutant que les contre-coups de cette décision seront nombreux. Sur le plan financier, une aide budgétaire de la Banque mondiale qui était associée à la conclusion de cet accord tombe également à l'eau. Et sur le plan économique, 2025 sera une année difficile, très difficile pour le Burundi, prédisent plusieurs économistes.
Esdras Ndikumana dans l'actualité ce matin également. L'Ouganda, à la cour martiale de Kampala, une nouvelle audience est prévue aujourd'hui au procès de l'opposant Kizza Besigye. Ces derniers jours, la cour suprême ougandaise a estimé pourtant que ce n'était pas à une juridiction militaire de juger des civils. Décision rejetée par le président Yoweri Museveni et par l'armée ougandaise. Kizza Besigye et qui est jugé pour des faits présumés de trahison et qui risque jusqu'à la peine de mort. Enfin, avant de retrouver Andréane Mellard et la suite d'RFI Matin. Nous allons à Dakar. Comment se passe l'école au Sénégal? Depuis 3 semaines maintenant, certains des petits Sénégalais apprennent l'anglais à l'école élémentaire en classe de CM1. Les dirigeants espèrent que les jeunes de leur pays en tireront une meilleure maîtrise de la langue de Shakespeare et de meilleures opportunités, notamment professionnelles. Aujourd'hui, un peu plus de 600 écoles sont concernées pour la phase de test, dont celle du quartier des Maristes à Dakar, où s'est rendue pour RFI Juliette Dubois.
Tous les mardis et jeudis désormais, c'est anglais pour cette classe de CM1. C'est le deuxième cours aujourd'hui. Les enfants apprennent les salutations de base. Il s'agit dans un premier temps de découvrir cette nouvelle langue. Seulement une heure par semaine en CM1 et en grande section dans les écoles pilotes. Première difficulté, de nouveaux sons à apprivoiser.
Repeat, I am from. Good.
Ici, nous avons des ethnies où il y a certains sons qui n'existent pas.
Joseph Ndiaye est l'instituteur de la classe.
À Ziguinchor, il y a une ethnie qu'on appelle Yolakasa, où il n'existe pas la lettre P, par exemple.
Malgré tout, les enfants se prennent déjà au jeu.
Je pense que c'est très intéressant. Ça me permettrait de communiquer avec les étrangers.
Il y a beaucoup de pays qui ne savent pas parler français, mais ils savent parler l'anglais.
Par exemple, t'aimerais aller dans quel pays?
États-Unis, pour travailler là-bas pour ma famille. Et l'Angleterre, jouer là-bas au football.
L'idée des autorités est d'ouvrir les élèves au monde, mais aussi de mieux les préparer au collège et au lycée.
L'anglais est enseigné de la 6e à la terminale.
Aïssatou Sissé, du bureau anglais au ministère de l'Éducation nationale.
Mais à la fin de cette année, en général, les élèves communiquent à peine en anglais. Donc nous avons bon espoir qu'en introduisant l'anglais à cet âge, ces compétences-là seront beaucoup plus améliorées.
L'année prochaine, le dispositif devrait être étendu à toutes les classes de CM1 et introduit au CE1 et au CM2. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
À Dakar, où il est maintenant 6h44. Et...